Merci d'écouter RFI. Il est 20h à Los Angeles, 5h ici à Paris. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Une semaine d'incendie à Los Angeles. Avec le retour du vent, les autorités craignent de nouveaux départs de feu. Les pompiers continuent de lutter contre les flammes et les secouristes cherchent d'éventuelles victimes dans les décombres. Le dernier bilan fait toujours état de 24 morts. Des odeurs de moisi et des gouttes d'eau qui y coulent dans les classes. Les établissements scolaires ne sont toujours pas prêts pour la rentrée à Mayotte. Un mois après le passage du cyclone Chido, le retour des enseignants et des élèves est donc décalé. En Afrique du Sud, une opération de sauvetage a débuté pour récupérer des mineurs illégaux bloqués depuis des semaines. La justice a finalement ordonné au gouvernement de prendre des mesures pour les secourir. Et puis l'heure de vérité pour le nouveau Premier ministre français, François Bayrou, devant les députés cet après-midi pour son discours de politique générale, très attendu notamment sur la question de la réforme des retraites. Des rafales jusqu'à 120 km/h. Comme attendu, les vents violents sont de retour à Los Angeles, une semaine après le départ des incendies qui ravagent toujours la ville californienne. Ces conditions extrêmes compliquent la lutte contre les flammes et rendent de nouveaux départs de feu beaucoup plus probables, selon les services météo américains. Pour le moment, 24 personnes ont été tuées dans ces incendies, mais le bilan pourrait s'alourdir, à en croire le témoignage du shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna.
Nous sommes toujours dans la région d'Altadena et nous en sommes au troisième jour de recherche. C'est une tâche très difficile et malheureusement, chaque jour, nous tombons sur les restes de membres de la communauté. Ce n'est pas un travail facile, c'est triste à dire. Et je pense que ce travail va non seulement se poursuivre, mais aussi que nous allons continuer à trouver des restes. Alors, soyez patients avec nous. Les gens disent « je veux juste aller voir ma maison et ce qu'il en reste ». Nous le savons, mais nous avons des gens qui cherchent littéralement les restes de vos voisins. Soyez patients avec nous.
Il faudra des dizaines de milliards de dollars pour reconstruire. Ça, c'est ce qu'a estimé le président américain Joe Biden, qui promet de continuer à utiliser tous les moyens disponibles pour combattre ces incendies. Au Canada, les feux de forêt, mais aussi les inondations et la grêle ont fait de 2024 l'année la plus coûteuse de l'histoire pour les assureurs. 8 milliards et demi de dollars canadiens, soit plus de 5 milliards et demi d'euros. L'alerte rouge a été levée à Mayotte, mais un mois après le passage du cyclone Chido, doublé ces derniers jours de la tempête dit Kennedy. La rentrée scolaire est finalement reportée. La ministre française de l'Éducation, Elisabeth Borne, précise qu'elle ne pourra pas intervenir avant la semaine prochaine, dans le meilleur des cas, pour les enseignants et encore plus tard pour les élèves. Sur place, les établissements scolaires sont toujours dans un état critique. Reportage de Justine Rodier.
Des gouttelettes tombent du plafond.
À la radio, vous n'aurez pas les odeurs, mais le moisi dans la salle est telle que, d'un point de vue hygiénique, ce n'est pas utilisable.
Victor Bacam est le principal d'un collège en petite terre. Il présente son établissement en essayant d'éviter les flaques. Les pompiers sont perchés sur le toit et tentent de colmater les dégâts.
Voilà, nous avons à peu près 40 salles qui sont inutilisables sur 76. Donc presque un peu plus de la moitié des salles qui sont inutilisables actuellement.
La rentrée qui devait avoir lieu dans une semaine est reportée. À Mayotte, ce n'est une surprise pour personne. Il y a un mois, le cyclone Chido a ravagé l'île, rendant inutilisables de nombreux établissements. Et ce week-end, Dick Kennedy a dévasté un peu plus les infrastructures. Au-delà du bâti, le corps enseignant n'est pas au complet et certains élèves ne sont toujours pas prêts. Ce monsieur travaille auprès d'un garçon en situation de handicap qui l'accompagne en classe.
On a perdu tout le matériel. Là, je suis en train de reconstituer les cahiers pour cet enfant parce qu'il a perdu tous ses cahiers.
Plusieurs élèves font état de syndrome de stress post-traumatique. Pour la population, il n'y avait pas d'autre choix que de reporter la rentrée. Justine Rodier, l'abattoir en petite terre, RFI.
Et pendant ce temps, en métropole, les députés poursuivent l'examen en commission du projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. Et même si aucun article n'aborde directement la question de l'immigration, c'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises dans les discussions. Ce sera un volet primordial d'un prochain texte, selon le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Un accord de trêve dans la bande de Gaza avec une libération des otages est sur le point d'être conclu. C'est en tout cas ce qu'assure le président américain. Les discussions se multiplient. L'émir du Qatar a notamment rencontré hier des émissaires de Joe Biden, mais aussi du prochain président américain, Donald Trump. Pour le moment, la guerre se poursuit. Hier, l'armée israélienne a bombardé la ville de Gaza toute la journée, tuant plus de 50 personnes selon les secours. 5 soldats israéliens sont aussi morts au combat, toujours dans le nord de l'enclave palestinienne. Le Liban a désormais un nouveau premier ministre, Nawaf Salam. Il a été nommé hier par le nouveau président Joseph Aoun. Nawaf Salam, qui était jusqu'à présent président de la Cour internationale de justice à La Haye et qui est attendu dès aujourd'hui au Liban pour former un nouveau gouvernement. En Afrique du Sud, nouvelle étape dans une affaire qui dure depuis des semaines. Une opération de sauvetage a démarré hier pour récupérer les mineurs illégaux qui se trouvent toujours sous terre dans une mine d'or abandonnée de la ville de Stilfontein au sud-ouest de Johannesburg. Un tribunal du pays a ordonné au gouvernement la semaine dernière de payer sans délai une équipe de professionnels pour organiser la remontée des survivants et des corps des mineurs décédés. Les précisions de Claire Bargelès.
La police, qui encercle les sorties de la mine abandonnée depuis plus de 4 mois, affirme qu'au moins 1500 mineurs illégaux sont déjà remontés et ont été arrêtés. Mais il serait encore plusieurs centaines à se trouver bloqués à plus de 2 km sous terre et à survivre dans de très mauvaises conditions. Des grues et du matériel ont été acheminés tout le week-end, malgré de fortes pluies, et une cage a été assemblée. Elle peut désormais descendre dans la galerie et remonter une dizaine de personnes à chaque trajet. De premiers essais ont déjà eu lieu ce lundi, permettant de faire sortir plusieurs survivants, ainsi que les corps d'au moins 9 mineurs décédés, selon un représentant de la communauté locale. La société privée chargée de ce sauvetage par les pouvoirs publics estime qu'il lui faudra plus ou moins 2 semaines afin de boucler l'opération. L'un des syndicats de travailleurs présents sur place dénonce un massacre, estimant qu'une centaine de personnes auraient perdu la vie sous terre. Les efforts des communautés locales jusqu'à présent avaient déjà permis d'extraire plusieurs cadavres. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
La première audience doit ouvrir dans une heure à Séoul. Première étape du procès en destitution de Yoon Suk-yeol. La Cour constitutionnelle doit décider si elle démet définitivement de ses fonctions le président sud-coréen après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. La Cour a jusqu'à la mi-juin pour se prononcer sur la motion adoptée mi-décembre par l'Assemblée nationale. Yoon Suk-yeol ne devrait pas être présent pour cette première audience. Volodymyr Zelensky assure avoir discuté avec Emmanuel Macron d'un éventuel déploiement de contingents militaires étrangers pour soutenir Kiev face à la Russie. Le président ukrainien assure qu'avec son homologue français, la conversation a été plutôt longue et détaillée et qu'ils auraient aussi évoqué les investissements dans l'achat d'obus pour l'Ukraine. Chaque mot sera scruté de près cet après-midi par les députés français. Quel budget le Premier ministre envisage-t-il ? Va-t-il parler d'une suspension ou d'un gel de la réforme des retraites ? Et si oui, pour quand ? C'est sur ce dossier en particulier que François Bayrou sera attendu cet après-midi lors de sa déclaration de politique générale. Pour éviter la censure de son gouvernement, il a multiplié les pourparlers, notamment avec les socialistes, mais sans avancée significative selon le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet. Et puis moins médiatisé, mais tout aussi attendu, les intentions du Premier ministre concernant la transition écologique, victime collatérale elle aussi de l'instabilité politique, comme l'estime Anne Bringot, directrice des programmes au réseau Action Climat.
Les gouvernements qui se sont succédés ont plutôt essayé de se rapprocher de l'extrême droite pour ne pas être censurés, ce qui ne leur a pas réussi. Et donc, les débats sont plutôt positionnés sur des questions de sécurité, d'immigration et la transition écologique est laissée de côté. Alors qu'en fait, ça reste une vraie préoccupation parce que les impacts du changement climatique, on les voit encore en ce moment à Los Angeles avec ces incendies meurtriers. On l'a vu avec des inondations également à Valence récemment. Par ailleurs, mettre en œuvre la transition écologique, c'est un projet de société particulièrement enthousiasmant qui peut permettre de créer des emplois, de renforcer la souveraineté énergétique et industrielle de la France. Donc on voit que c'est un projet qui peut être enthousiasmant, mais pour l'instant qui n'est pas porté malheureusement par les gouvernements qui se sont succédés. Et on espère que dans cette déclaration de politique générale, François Bayrou prendra vraiment la mesure de l'importance de ce sujet.
Anne Bringot du réseau Action Climat. Toujours en France, l'abbé Pierre, visé par 9 nouvelles accusations de violences sexuelles, dont un viol sur mineur et des faits concernant un membre de sa famille. Au total, 33 témoignages visent désormais le prêtre décédé en 2007. Les Danois, triple tenant du titre et champion olympique à Paris, vont-ils encore briller à domicile? Le mondial de handball débute aujourd'hui dans 3 pays, Croatie, Norvège et donc Danemark. L'équipe de France, elle, 6 fois championne du monde et victorieuse de l'Euro l'an passé, va de son côté essayer avec un effectif en partie renouvelé de faire table rase de son récent passé avec son échec en quart de finale des Jeux olympiques à domicile à Paris. Christophe Diremzian.
Oublier la désillusion, effacer les traces de la sortie de route des Jeux, les Bleus vont s'y employer avec la détermination de champion d'Europe en transition. La star Nicolas Karabatic, le gardien Vincent Gérard et l'ailier Valentin Porte ont passé la main. Mais le groupe ne repart pas pour autant de zéro, rappelle l'arrière Elohim Prandi.
La plupart des mecs qui sont là depuis déjà quelques années en équipe de France, ont gagné des titres. On rajoute des super joueurs au sein de l'effectif, donc c'est une suite logique. Tout le monde garde l'échec des Jeux en tête, même si ça reste derrière et qu'on relance un chapitre qui va être crucial pour nous et ça va être très important d'être performant et de ôter le titre aux Danois.
Sous le nouveau capitanat de Ludovic Fabregas, 2 victoires convaincantes en amical contre la République tchèque et le Portugal ont permis aussi de dessiner les nouveaux contours d'un jeu qui s'inscrit malgré tout dans une certaine continuité, estime l'arrière d'Ikamem, auteur de la bévue fatale au tricolore l'été dernier.
Il n'y a pas non plus énormément de choses à changer. Retrouver de la fluidité entre nous, rien que ça, ça va changer énormément de choses. Au JO, le ballon il circulait moins, c'était plus de l'individualité que l'esprit d'équipe. Et rien que de retrouver l'esprit d'équipe, ça va énormément nous aider à être mieux dans la compète.
Un mondial où le niveau de l'adversité va toujours crescendo, de quoi se roder avant de croiser les plus sérieux prétendants à la conquête d'un titre que, mine de rien, les tricolores n'ont plus gagné depuis 2017.
Et le premier match des Français, ce sera aujourd'hui donc en Croatie à Poreč à 17h, temps universel contre le Qatar. Et puis elle est sur le point de remporter son premier Vendée Globe. Le Français Charlie Dalin a attendu dans les prochaines heures, voire dans les prochaines minutes au Sable d'Olonne pour franchir la ligne d'arrivée de ce Tour du Monde à la voile en solitaire. Après seulement 64 jours de course, record pulvérisé de 9 jours. Pour le moment, il est 5h11 à Paris, 1h de moins en temps universel.
Clotilde Dumay.
Et on reste ensemble encore pour une vingtaine de minutes. Dans un instant, vous allez voir que la Suisse, elle aussi, a un passé colonial. Une exposition à Zurich est actuellement consacrée à cette partie plus méconnue de l'histoire helvétique. Reportage à suivre. Au Royaume-Uni, des associations demandent une réforme du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Il est toujours officiellement pénalisé en Angleterre et au Pays de Galles, même si dans les faits, il est possible d'avorter jusqu'à 24 semaines de grossesse. On va y revenir avec la correspondante de RFI à Londres. Et puis c'est un film qui sort au cinéma demain en France. Par amour, un film avec Cécile de France dans le rôle principal. L'actrice invitée de Sophie Torlotin. Contrairement par exemple à la France ou au Royaume-Uni, c'est un pays auquel on pense beaucoup moins lorsqu'il s'agit d'évoquer la colonisation. Et pourtant, la Suisse, elle aussi, sans même avoir possédé la moindre colonie, a bâti sa fortune sur l'exploitation des hommes et des ressources naturelles des pays du Sud. Ce volet moins connu de l'histoire suisse est exposé pour la première fois au Musée national à Zurich. Visite guidée avec Jérémy Lange.
Dès le XVIe siècle, l'économie suisse profite de l'expansion coloniale européenne. Des entreprises, des hommes d'affaires investissent dans le commerce de denrées comme le café, le cacao ou le coton et donc dans le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde. Marilyn Umurungi est la co-commissaire de l'exposition « Colonialisme, une Suisse impliquée ».
Par exemple, des compagnies comme la compagnie baloise Christophe Burkhardt-Mzia, ils ont investi dans des bateaux de traite, ils ont investi dans le commerce avec les Indiennes. Les Indiennes, c'est des tissus, c'est du coton qui a été fait imprimer. On a échangé ça contre des personnes réduites en esclavage.
Des recherches récentes estiment qu'entre le XVIe et le XIXe siècle, la Suisse est responsable de la déportation d'environ 172 000 esclaves africains. C'est peu en comparaison aux 12 000 de personnes arrachées au continent, mais c'est beaucoup pour un pays sans colonie. Tout ça interpelle forcément les visiteurs, surtout quand ils sont jeunes, Fabrizio, 18 ans.
C'est complètement nouveau pour moi. J'ignorais totalement que la Suisse était autant impliquée.
Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école ici ?
Non, on nous donne juste les bases de l'histoire coloniale, mais là j'ai appris qu'il y avait un versant suisse.
Il faut aussi parler des nombreux mercenaires employés par les puissances coloniales pour maintenir l'ordre dans leur dominion. L'exemple le plus connu est peut-être celui d'Haïti, où Napoléon a fait appel à des mercenaires suisses pour mater la révolte de Toussaint Louverture et rétablir l'esclavage. Le colonialisme dans les actes et dans les écrits. À Zurich comme à Genève, des penseurs ont élaboré quantité de théories raciales pour donner une légitimité à l'esclavage.
Agassiz, Louis Agassiz, qui a développé une théorie qui puisse montrer que les personnes noires, les personnes réduites en esclavagisme, ont des corps différents qui sont faits pour travailler sur les champs, pour faire des travaux durs, beaucoup plus que les corps caucasiens, les corps blancs.
À Genève, l'université a choisi de débaptiser le bâtiment Karl Vogt, médecin, premier recteur de l'université et auteur de thèses racistes et misogynes. Justice pour les uns, soumission à la culture woke pour les autres, le débat est vif en Suisse et c'est sans doute l'un des mérites de ce genre d'exposition. Colonialisme, une Suisse impliquée, c'est à voir jusqu'au 19 janvier au Musée national de Zurich. Jérémy Lanche à Zurich, RFI.
Et reportage à réécouter sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Au Royaume-Uni, une trentaine d'associations médicales et familiales réclament une réforme du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ça concerne plus précisément l'Angleterre et le Pays de Galles, puisque l'Irlande du Nord et l'Écosse sont souveraines sur cette question. On estime qu'une Britannique sur trois a avorté ou avortera au cours de sa vie. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Londres. Alors que réclament Emeline ces organisations ?
Sur le papier, l'avortement reste un crime passible de la perpétuité, mais autorisé sous certaines conditions. Les médecins britanniques interprètent ces conditions de manière très large et dans les faits, il est possible d'avorter jusqu'à 24 semaines de grossesse dans une clinique conventionnée par voie chirurgicale ou médicamenteuse. Depuis la pandémie, il y a 5 ans, il est également possible de recevoir des pilules abortives par la poste, là aussi sous condition, et d'avorter chez soi. Ça peut paraître très tolérant, on pourrait penser aussi qu'il s'agit d'une loi qu'on a un peu oubliée et qui n'est plus en vigueur, mais la police continue d'enquêter aujourd'hui sur des cas d'avortements illégaux présumés.
Et donc que réclament aujourd'hui les organisations, Emeline ?
La modernisation des lois qui encadrent l'IVG. Ces dernières datent de 1967, si à l'époque il s'agissait d'un texte pionnier à l'échelle mondiale, aujourd'hui il place l'Angleterre et le Pays de Galles un peu à la traîne. Cette coalition de 30 organisations, des syndicats de soignants, des collectifs de parents et de patients, entre autres, demande déjà qu'il ne soit plus nécessaire d'obtenir l'approbation de 2 docteurs avant de pouvoir avorter. Comme pour les autres questions de santé, l'autonomie du patient et le consentement éclairé doivent primer, explique-t-elle. Mais surtout, et c'est vraiment le cœur de sa demande, la coalition exige que l'IVG soit pleinement dépénalisé. Les femmes ne doivent plus être menacées de poursuites judiciaires, selon elle, et les hôpitaux ne doivent plus être contraints de transmettre les données de santé aux autorités.
Mais donc pour le moment, théoriquement, ça veut dire qu'on peut toujours être poursuivi pour avoir avorté ?
Absolument. Sur les 2 dernières années, une trentaine de personnes ont été visées par des enquêtes pour avortement illégal. Une trentaine, c'est peu, mais pour vous donner une idée, c'est 0 en France où l'IVG est dépénalisé. Et c'est un record depuis plus de 20 ans qui s'explique en grande partie par l'ouverture de ce programme de télémédecine et de pilules reçues par la poste. Ce que ça veut dire, c'est que quand une femme fait une fausse couche ou accouche d'un bébé mort-né, elle peut être visée par une enquête pour avortement illégal. Parfois même, cela va jusqu'au procès. Et tout cela, pour la coalition d'associations dont on parlait, c'est rajouter du traumatisme à une expérience douloureuse. Et surtout, elles estiment qu'aucune femme ne doit être contrainte de mener à terme une grossesse non désirée, quelles que soient les circonstances. Elles espèrent faire voter un amendement lors d'une loi générale sur la justice et le maintien de l'ordre qui devrait être examinée par le Parlement au printemps.
Emeline Vin, correspondante de RFI au Royaume-Uni. Jusqu'où pourriez-vous aller par amour ? C'est un peu la question posée par un film français qui sort au cinéma demain. Dans ce film, une mère de famille choisit par amour de faire confiance à son fils, un garçon de 9 ans, qui affirme entendre dans l'eau des extraterrestres qui lui parlent. Par amour, c'est le titre de ce film avec Cécile de France dans le rôle principal. Elle répond aux questions de Sophie Torlotin.
Cécile de France, bonjour.
Bonjour.
Dans Par amour, vous incarnez une mère de 2 garçons qui portent la charge du foyer. Le père est beaucoup en absence en raison de son travail. Et un jour, l'aîné de 9 ans présente un trouble, on va dire, inquiétant. Il entend des voix. Et votre personnage, Cécile, va faire un choix étonnant par amour.
Oui, elle va décider de le croire, de croire son histoire. On démarre dans un récit un peu plus intimiste, on est dans une famille en crise, le couple se dispute beaucoup et cet enfant préadolescent donc va pas bien, il a peur que ses parents divorcent finalement. progressivement et de manière assez poétique, le récit fantastique va apparaître. Dans un récit fantastique, le héros en général se retrouve esselé, en fait, parce qu'il n'ose pas parler de cette angoisse qui monte. Et là, il décide d'en parler à sa maman. Et c'est une maman qui est très connectée à ses enfants. Elle décide de viscéralement, intuitivement, le croire. Et donc voilà, c'est un personnage et un film qui interroge beaucoup et qui nous tiraille, comme l'est aussi mon personnage au début du film, entre le côté cartésien de la société et puis aussi notre capacité à nous émerveiller, à rêver, à nous connecter à notre âme d'enfant, en fait, finalement.
Mais ce film, il reste ambigu. Il y a différentes pistes, vous le disiez, Cécile de France. La piste du trouble de l'enfant, la piste du trouble de la mère, est-ce que l'enfant est un symptôme? Et évidemment, la piste du fantastique, on pense au cinéma américain, en fait, parce que cette ambiguïté-là, ce mélange, cette hybridation entre réalisme et fantastique est assez peu exploitée dans le cinéma français précédemment.
Oui, oui, c'est vrai. Et Elise Hudson-Berger, la réalisatrice, a été bercée durant toute son enfance par les films de Steven Spielberg. Et on retrouve effectivement, dans le début des films de Spielberg, cette famille au bord de l'éclatement et où apparaît un événement surnaturel qui va peut-être les sauver, peut-être leur faire retrouver la foi en l'amour, leur faire ressouder ces liens fragilisés. Et là, Elise a utilisé l'élément eau comme médium, on va dire, narratif, un élément qui peut être à la fois symbolique, inquiétant, qui fait appel à notre imaginaire aussi, quand on pense au fond marin, au liquide amniotique, enfin, il y a énormément, c'est très riche hein, comme thème.
Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons.
Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche. Papa lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs.
Je sais ce qui est bien pour mon enfant.
Maman ! Il y a plein d'eau !
Et ça vous a demandé, Cécile de France, un engagement physique important, parce que vous plongez, vous vous mettez littéralement à l'eau dans différentes séquences, notamment dans un fleuve.
Oui, oui, on a tourné une scène en hiver, il faisait vraiment très froid, et dans la Moselle, qui était à 11 degrés, mais on était très bien équipés. Mais c'était surtout pour Darius Zarabian, qui joue mon fils, Simon. Cet enfant de 9 ans qui a des difficultés. Et Darius a fait preuve d'un énorme courage. Et il a sauté du haut d'un muret dans cette eau glacée. Et donc, ça a été un grand défi pour lui relevé. Et on a tous été très, très fiers de lui. C'était un grand moment.
Cécile de France, merci.
Merci à vous.
Cécile de France, interrogée par Sophie Torlotin pour ce film, donc Par amour, qui sort au cinéma demain en France.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Accompagner les jeunes parents handicapés, c'est le sujet, Caroline Paré, que vous allez aborder aujourd'hui.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé, un reportage long format de Charlie Dupiot sur la parentalité et le handicap, reportage en deux volets. Et pour commencer, une première illustration en France. Bonjour Charlie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors vous vous êtes rendu, Charlie Dupiot, dans un service unique dans l'Hexagone. C'est le service d'accompagnement à la parentalité pour les personnes en situation de handicap.
Oui, c'est le SAPPH qui est situé dans le 14e arrondissement de Paris. Et dès la grossesse, des parents, qu'ils soient déficients auditifs, déficients visuels ou bien handicapés moteurs, peuvent venir pour y apprendre des gestes qui seront importants dans le quotidien avec leur bébé. Et ce, grâce notamment au conseil de l'infirmière puéricultrice de la structure, Charlène Saint-Fort. Avec elle, Léa, qui est aveugle, et son conjoint Kevin, qui est lui malvoyant, apprennent à changer une couche. Ils attendent un bébé très prochainement et ils sont chacun face à une table de linge, un poupon posé devant eux.
Donc là, notre table à longer, la sécurité avant tout, on va rester collé contre la table à longer. Là, on va se remettre debout et complètement à droite, on va retrouver les couches. On sent vraiment la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la couche.
Ouais, il y a un truc plus doux quoi. On se doute bien que ce truc plus doux, c'est pour l'intérieur quoi.
Puis on sent qu'il y a des rebords en fait.
Voilà, tu ouvres.
Comme ça.
Et tu la replies.
En ce qui me concerne, c'est vrai que je fais hyper. J'ai toujours peur en fait de mal faire, etc. Enfin, de cogner.
Bah, ne serait-ce que quand on l'allonge sur la table allongée ou dans le berceau, un voyant il fera jamais ça, mais nous on a la main sous sa tête et on tend l'index. Comme ça, si jamais on est mal positionné, cling, c'est l'index qui se cogne dans la paroi, c'est pas la tête du bébé qui fait ping là.
Reportage de Charlie Dupiau. Et pour découvrir ce service d'accompagnement à la parentalité à Paris et bien sûr rencontrer d'autres futurs parents en situation de handicap, on se donne rendez-vous à 9h10 et 1h10 temps universel. Et c'est bien sûr à réécouter en podcast à la demande sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci beaucoup Caroline Paré. Pour le moment, il est 5h24 à Paris. Bon réveil si vous êtes en France, bon début d'après-midi par exemple depuis Séoul, ou bien bonne soirée, bonne nuit si vous êtes par exemple à New York. Je vous laisse avec un peu de musique, Mustang et Arthur Teboul, Aéroport. C'est le choix des programmateurs de RFI.
Dans l'allée pour la mort, on a droit à deux bagages. Je me sens comme un porc sur sa chaîne d'abattage. Je me sens déjà sale, les yeux sont fatigués et les pieds me font mal. Dans l'avion, je sais qu'ils vont gonfler. À l'aéroport, ça me rend tellement mauvais. Le monde ressemble fort à l'aérogare de Beauvais. Magasin détaxé, faune cosmopolite et parfums emmêlés qui puent et vous irritent. Ce n'est pas un espace, c'est un parcours fléché. Va niquer ta race avec ton sac Versace.
La grâce t'attend quelque part, tu ne sais où, tu ne sais où. Est-ce à Lima, Londres ou à Dakar? Est-ce à Moscou, est-ce à Moscou?
À l'aéroport, reste un espoir qu'il se passe quelque chose. Une fille aux beaux yeux noirs, une bombe qui explose.
Laisse-toi noyer dans la foule, va la surprise à Hong Kong, Delhi ou Séoul, Lille ou Venise. Laisse-toi noyer dans la foule, va la surprise à Hong Kong, Delhi ou Séoul, Lille ou Venise. Tu n'as pas vu l'Atacama, cet immense désert fauve, devenir du jour au lendemain un océan de fleurs mauves. Oui, toi tu ne sais rien encore de la majesté, de la gloire ancienne des ruines d'encore qui ressuscite le soir. La grâce t'attend près d'ici, tu ne sais plus, tu ne sais plus. Est-ce à Lens, Rio, Helsinki, Honolulu, Honolulu?
Le magazine de bord vous vend une vie rêvée, une saucisse à Francfort, le soir à Capri des Vongolais. Une fois que tout le monde dort, on peut enfin rêver, mais on ne rêve pas bien fort dans la cabine climatisée. Le soleil dort dans ce ciel dégagé, nous sommes dans l'angle mort d'un lieu un peu découragé.
La grâce t'attend quelque part, je te le promets.
Reste un espoir qu'il se passe quelque chose. Une grosse bagarre, une hôtesse un peu chaude. À l'aéroport, il faudra attendre pour fumer. Et dehors, la navette et les rues bouchonnent. À l'aéroport, moi je hais le monde entier, le monde ressemble fort.
Laisse-toi noyer dans la foule, va la surprise à Hong Kong, Delhi ou Séoul, Lille ou Venise. Laisse-toi noyer
à l'aéroport, à l'aéroport, à l'aéroport, à l'aéroport.
Voilà, Mustang et Arthur Teboul dans la playlist de RFI. Restez avec nous dans un instant, l'actualité africaine.
Ce mardi sur RFI.
Comment faire de l'astronomie en bande dessinée?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Dessine-moi une étoile et des galaxies
Raconte-moi comment notre Terre est un point de poussière suspendu à un rayon de soleil et pourquoi il n'y a pas de hasard, mais des rencontres forcément astronomiques à partager en bulles sous le même ciel, c'est carrément cosmique.
Autour de la question avec Caroline Lachowski, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez jusqu'au 26 janvier sur APAfrique, APAfrique.rfi.fr.